Bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'histoire, l'histoire des Vosges, l'histoire d'Épinal et l'histoire au sens large également de notre pays, en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire et surtout vous êtes notre invité pour cette série consacrée à la thématique de l'histoire dans les Vosges, l'histoire plus particulièrement actuellement des fortifications. Nous avons eu l'occasion déjà d'en parler lors de premières émissions sur cette thématique ou comment elles sont apparues progressivement et comment est-ce qu'on se défendait puisque ces fortifications sont avant tout des bâtiments de guerre. Et on va continuer sur cette thématique pour découvrir encore davantage ces lieux qui sont aujourd'hui encore bien présents sur notre territoire. Alors, vous nous proposez quel aspect à aborder aujourd'hui ?
Je crois qu'il faut déjà revenir sur, non pas sur de la théorie, mais je crois qu'il faut déjà reprendre un petit peu quelles sont les conceptions justement de défense, d'attaque, mais pas seulement parce que vous disiez tout de suite que c'était les fortifications étaient des éléments de guerre. C'est pas seulement de guerre, c'est aussi pour éviter la guerre parfois. C'est-à-dire c'est une dissuasion. Je vais prendre deux exemples. Quand on regarde les quelques 400 ruines qui subsistent encore de l'époque médiévale en Alsace, par exemple, ce sont essentiellement des témoins d'une puissance locale où on donne le signal à un adversaire éventuel. Si vous cherchez des noises, eh bien, on est là pour pouvoir répliquer. Donc, on vous voit. C'est la raison pour laquelle c'est pas seulement un élément de défense que de percher ces châteaux sur une éminence en face de la plaine d'Alsace. Mais c'est un peu la même chose chez nous, mais dans une moindre mesure. Mais c'est surtout parce que il faut qu'on nous voit. Et en nous voyant, on est dissuasif. On comprend que si on veut effectivement attaquer, ben, ça va poser des problèmes. Et on risque d'avoir beaucoup de pertes, d'autant plus que celui qui assiège une fortification, il est en plein air, c'est-à-dire qu'il est soumis à toutes les intempéries, alors que celui qui se défend, lui, il peut être plutôt au chaud et à l'abri. Donc il y a cet aspect de dissuasion qui est important. Deuxième exemple, la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'était le signal donné à l'Allemagne à partir des années 1930, que s'ils voulaient attaquer, ben, ils allaient se heurter à une défense coriace, où il leur faudrait des semaines pour pouvoir la traverser, avec de très grandes pertes. Donc c'était peut-être pas la peine d'essayer. Hein. C'est ça, c'est un peu comme aujourd'hui la dissuasion nucléaire. C'est fait pour ne pas s'en servir.
C'est ce que j'allais dire, ça sert surtout à dire à l'ennemi, viens pas nous embêter, on a ce qu'il faut pour te recevoir.
C'est ça. Il y a toujours cette notion-là qu'il faut avoir en tête. Alors cela dit, effectivement, le gros problème de la fortification, dont les doctrines vont évoluer effectivement depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, on peut dire. C'est une doctrine qui va finalement évoluer, mais relativement peu. En fait, on s'aperçoit qu'il y a deux conceptions qui vont s'opposer. Une conception qui va dire il faut s'enfermer, il faut avoir une défense qui soit très dense et qui soit finalement qui permette une défense continue. Et puis, une autre conception qui consiste à dire, ben non, il nous faut une défense qui soit beaucoup plus souple, qui puisse éventuellement permettre des infiltrations, mais où on peut coincer, en fait, l'adversaire s'il s'infiltre entre nos défenses pour pouvoir l'anéantir. Et d'ailleurs, on le reverra, mais c'est aussi ce qui a amené les doctrines du général Serré de Rivière à évoluer après la guerre de 1870, où il avait été rapporteur, comme général du génie, rapporteur du procès de la reddition de Metz, de Bazaine, donc en 1870, lors de la guerre franco-allemande. Et Bazaine s'était laissé enfermer avec la plus grande partie de l'armée française. Il était laissé enfermer dans Metz. Donc Metz qui était fortifié en continu. Avec quelques forts détachés, certes, mais il y avait eu un siège. Et il était bloqué dans Metz, il était obligé de se rendre. Et donc, Serré de Rivière en avait tiré toute une série d'évolutions en se disant, il ne faut surtout pas se laisser enfermer.
Il ne faut pas se retrouver dans la même situation.
Voilà. Et donc, toute sa conception, on le reverra, toute sa conception de défense avec des forts détachés qui se protègent les uns les autres, mais où on laisse une respiration. Et même une respiration très large, puisque dans sa conception, il va y avoir, mais on y reviendra, des rideaux fortifiés, par exemple Belfort-Épinal, Toul-Verdun, mais entre les deux, on a une trouée, la trouée de Toul. Et donc on dit à l'adversaire, bah, si vous voulez attaquer, vous passez par là, et nous on vous retrouve derrière. C'est ce qui se passera en 1914 d'ailleurs. We'll be right back. Alors, la deuxième chose aussi qu'il faut dire, c'est que la principale évolution dans toutes ces affaires depuis, on va dire, depuis le Moyen-Âge, puisque entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, disons jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, les choses évoluent relativement peu du point de vue des armements. On a au XIIIe siècle à peu près toujours les mêmes utilisations d'armements qu'on avait dans l'Antiquité.
C'est l'arrivée de la poudre qui va changer quelque chose.
Avec des armements de jet, hein, tout simplement. Et c'est l'arrivée de la poudre, effectivement, la poudre noire, qui va, celle qu'on utilise encore pour les feux d'artifice actuellement, qui va jusqu'au XIXe siècle. Après, on aura d'autres systèmes de propulsion, mais qui va effectivement amener une évolution complète des conceptions défensives. Puisqu'à partir du moment où on va pouvoir tirer avec de l'artillerie à poudre et avec des engins qui vont devenir de plus en plus puissants. Hein, au début, l'artillerie, c'est des tubes en fer qui explosent une fois sur deux. Enfin, j'exagère, mais enfin, c'est presque ça. Et qu'on amène à quelques dizaines de mètres de la muraille que l'on veut battre. Hein. Alors ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de la métallurgie, avec des alliages de plus en plus costauds hein, pour fabriquer les tubes de canon, pour éviter qu'ils explosent, tout simplement, avec des inventions successives sur les procédés de fabrication de la poudre, aussi qui va devenir de plus en plus efficace, avec aussi l'usinage de boulets. Au début, on tire avec, comme les projectiles de catapultes, avec des boulets en pierre, tout simplement, qui sont d'ailleurs d'une facture étonnante. Hein. Je conseille à nos éditeurs d'aller voir au musée du chapitre, on en a quelques-uns qu'on a retrouvés dans les fouilles épinales, c'est extraordinaire, la taille de boulet en granit. C'est une sphère quasiment parfaite, on se demande comment ils y arrivaient. Enfin bref, mais après on est passé effectivement, parce que ça casse malgré tout, même si c'est du granit, donc on est passé avec des boulets métalliques, avec des boulets de fonte. Et ceci jusqu'au milieu du 19e siècle. Et donc cette artillerie de plus en plus puissante va nécessiter en face que la cuirasse, c'est-à-dire la fortification, évolue elle aussi. Donc on va passer de murailles de pierre élevées, qu'on essaie déjà à l'époque romaine, hein, tout simplement, jusqu'au Moyen-Âge, c'est les murailles, hein, tout simplement, les donjons, etc., mais qui sont des cibles parfaites pour une artillerie de plus en plus puissante, qui tire de plus en plus loin, et avec un projectile qui percute de plus en plus fort, et qui va détruire, évidemment, ces murs, à force de taper dessus. Il ne faut pas oublier qu'une muraille s'est faite en trois parties. Il y a ce qu'on appelle un parement, c'est-à-dire des moellons taillés à l'intérieur. Il y a un parement à l'extérieur, avec des moellons taillés, hein, c'est de la belle maçonnerie. Hein, on peut le voir à Épinal, hein, voilà. Et puis entre les deux, c'est du blocage. C'est-à-dire qu'on met un peu n'importe quoi, y compris des os, enfin bref, tout ce qu'on a sous la main, pour faire une épaisseur, en fait. Et si on arrive à détruire le parement extérieur, donc en tapant dessus sans arrêt, que ce soit avec une catapulte ou avec de l'artillerie à poudre, il finit par dégringoler, et le parement qui est derrière va tomber de son propre poids. Parce qu'il n'est pas lié, souvent, avec beaucoup de choses, ça coûte cher, hein, tout simplement. Donc il va entraîner, en fait, la chute de la muraille. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà épaissir les murailles, déjà. On a un bon exemple d'ailleurs au donjon d'Épinal, où on a le mur qui se trouve du côté supposé de l'arrivée de l'adversaire, c'est-à-dire du côté colombière, où on a une muraille du donjon qui a été épaissie jusqu'à 8 mètres d'épaisseur, où on a ce qu'on appelle un donjon à crocs, avec un angle très vif en face de l'adversaire potentiel. Hein, 8 mètres d'épaisseur. Bon, pour donner un autre exemple pour nos amis qui vont faire du tourisme dans le sud, regardez le château de Salses, par exemple, quand on va sur la route de Perpignan, château de Salses qui a des murs d'une épaisseur extraordinaire. Hein. Ça, c'est la première réplique de la défense. Deuxième réplique, c'est abaisser les murs. Abaisser les murs parce qu'ils étaient une cible, évidemment, rêvée pour l'artilleur qui arrivait en face. Hein, et tirer la cible. Donc on va abaisser les murs, on va les faire descendre de plus de moitié, sachant que l'artillerie, elle est pour l'adversaire, mais elle est aussi pour la défense. Donc on se dit que finalement, on arrivera bien à résister à une attaque de l'infanterie avec des murs plus bas. On n'a pas besoin d'avoir des murs qui fassent 10 mètres de haut.
Sachant qu'on nous-mêmes de l'artillerie pour contre-attaquer et faire de gros dégâts face à un ennemi qui, lui, est en déplacement, donc n'a pas ses murs.
Absolument. Et puis la troisième idée, c'est de renforcer les maçonneries avec de la terre. Il ne faut pas oublier que, encore une fois, jusqu'aux guerres napoléoniennes, et je parle de Napoléon Ier, jusque dans les années 1830, les projectiles principaux d'un champ de bataille, ce sont des boulets en fonte, des boulets inertes. Là aussi, allez voir au musée du chapitre, on en a quelques dizaines de kilos. Ces boulets inertes, que ce soit dans la marine ou que ce soit dans l'armée de terre. Et donc, ils n'explosent pas. C'est-à-dire que quand on regarde un film, par exemple, et qu'on voit des explosions du côté de l'ennemi quand on tire, c'est une erreur. La fumée, elle est du côté du tir d'artillerie. C'est-à-dire que c'est la poudre noire qui fait une fumée terrible, et c'est là où on a la fumée, mais pas du côté de l'adversaire. Et donc, ça, c'est le projectile qui sera remplacé progressivement au milieu du 19e siècle par l'obus. Alors l'obus, cette fois, c'est une pièce métallique remplie de poudre qui va exploser à l'impact, puis ensuite qui explosera avec un réglage de fusée, etc., etc.
Bon, voilà en tout cas une volonté de moderniser ces installations et de se rendre capable de se protéger des attaques ennemies. Alors je vous propose, Jacques Grasser, qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour poursuivre sur cette thématique et avancer encore sur les travaux d'aménagement qui ont été faits sur ces forteresses, sur ces lieux, ces forts, ces structures pour protéger les cités d'attaques ennemies. À très bientôt.